musiciens, des comédiens, des éthologues,
des ethnologues, des dessinateurs, des sculpteurs de géants, des danseurs, des arachnophobes.
J'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
Les concertants.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Il est 15h04 sur France Inter. Bon après-midi, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
As-tu vu Bismarck sur la route du Conquet qui fumait sa pipe sur un gros canon? Le canon éclate, Bismarck est foutu. Poincaré l'attrape par la peau du cul. Il le fout aux chiottes et chie par-dessus. Oh, c'est pas beau la germanophobie, hein. C'est Christelle de Brest.
Bravo Greenpeace pour cette action d'éclat merveilleuse qui nous montre à quel point on peut pénétrer dans une centrale nucléaire, on peut tout bricoler à l'intérieur et tout. Mais par contre, ils ont fait une petite erreur, hein, c'est que en supposant qu'un terroriste veuille pénétrer à l'intérieur, à mon avis, c'est pas en basket qu'il le fera, mais plutôt en Boeing ou en Airbus. Il est pas con, le mec. Et vu la taille des installations, il y a peu de chances qu'il loupe sa cible. En tout cas, à ce moment-là, nous aurons droit à un feu d'artifice d'une ampleur que ceux du 14 juillet seront un aimable suppositoire à la naphtaline à côté. Allez, n'oubliez pas vos pastilles d'iode. C'est Jeff à Chambéry.
Salut Daniel, salut à tous, Xavier de Strasbourg. Voilà, je voulais vous lire un petit article de droit européen, l'article 151 du traité de l'Union européenne. Alors tenez-vous bien, ouvrez les guillemets. L'Union et les États membres ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions. Alors c'est génial, hein, tout le monde signerait. Bon, c'est sans compter avec le paragraphe 2 du même article, qui stipule qu'à cette fin, l'Union et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie et de l'Union. Tout est dit. Le social, c'est bien, mais le marché s'en occupe, les mecs. Hein, la bonne vieille main invisible. Allez, salut à vous.
J'ai une question qui paraîtra peut-être un peu naïve, mais que certainement beaucoup de gens se posent, à savoir si un pays refuse de payer sa dette, très concrètement, que se passe-t-il? Parce que à moi, si je refuse de payer ma dette à une banque, on me saisit mes biens, mais à un pays, qu'arrive-t-il? Voilà, merci de m'apporter une réponse. Au revoir.
Once upon a time, il était une fois une créature fruste qui errait dans la campagne et inspirait l'épouvante chez ceux qui croisaient son chemin. Tout le monde l'a nommé Frankenstein. En fait, cette créature n'avait pas de nom. Elle était bien la créature du docteur Frankenstein et avait échappé au contrôle de celui-ci en s'enfuyant de son laboratoire. Nous revivons depuis 20 ans le même conte fantastique. Les fameux marchés anonymes parcourent la planète dans tous les sens. Ils sont à la fois dangereux et sans conscience. Ils inspirent une crainte sans nom dans tous les pays qu'ils traversent, et même chez les docteurs Frankenstein qui ont mis au point ces créatures complexes que sont les marchés anonymes. Ces créatures viennent du 19e siècle. Elles avaient été capturées et endormies dans les années 30 par les docteurs Keynes et Roosevelt pour le plus grand bien de l'humanité. Mais dans les années 70, des savants fous, Friedman, Reagan et Thatcher, les ont réveillées pour tester leurs capacités au nom du modernisme et des nouvelles technologies. Et dans les années 90, elles ont échappé à leurs successeurs désemparés qui ne savent plus quoi faire devant ces entités imprévisibles et incontrôlées qui parcourent le monde en semant le désordre. Nous en sommes là. Existera-t-il un nouveau docteur Roosevelt pour maîtriser ces monstres?
Pour un audit citoyen de la dette,
écoles, hôpitaux, hébergements d'urgence, retraites, chômage, culture, environnement. Nous vivons tous au quotidien l'austérité budgétaire et le pire est à venir. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Telle est la rengaine que l'on nous ressasse dans les grands médias. Maintenant, il faut rembourser la dette, nous répète-t-on matin et soir. On n'a pas le choix, il faut rassurer les marchés financiers, sauver la bonne réputation, le triple A de la France. Nous refusons ces discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas assister en spectateur à la remise en cause de tout ce qui rendait encore viable nos sociétés en France et en Europe. Avons-nous trop dépensé pour l'école et la santé ou bien les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 20 ans ont-ils asséché les budgets? Cette dette a-t-elle été tout entière contractée dans l'intérêt général ou bien peut-elle être considérée en partie comme illégitime? Qui détient ces titres et profite de l'austérité? Comment est produite la monnaie? Pourquoi les États sont-ils obligés de s'endetter auprès des marchés financiers? Nous refusons que ces questions soient évacuées ou traitées dans notre dos par des experts officiels. En fin de compte, ne sommes-nous plus que des jouets entre les mains des actionnaires, des spéculateurs et des créanciers, ou bien encore des citoyens capables de délibérer ensemble de notre avenir? Voilà, c'est l'objet d'un appel diffusé sur Internet. Il y a une pétition à signer, c'est donc pour un audit citoyen de la dette. C'est sur www.audit-citoyen.org.
Je repense à cette petite dame, la petite ministre italienne du Travail, qui a fondu en larmes et qui n'a pas pu cacher son désarroi. Je me dis, oui, ça ne risque pas d'arriver en France. Hein. Quand on voit les Pécresse, Baroin, Fillon et compagnie, eux, ils se targuent d'être extrêmement courageux parce qu'ils nous fouettent de leurs mesures d'austérité et ils disent, oh là là, on est vraiment courageux, on prend des mesures impopulaires, qu'est-ce qu'on est bien. Ils ne versent pas une larme sur les pauvres gens que cela touche. C'est tellement flagrant. Et là, cette petite dame italienne, quelle mignonne petite chouchouette. Je ne sais pas ce qu'elle fait en politique, d'ailleurs.
Ah oui, c'est ça la bonne question. On ne sait pas ce qu'elle fait en politique. Elsa Fornero, célèbre depuis hier, cette femme ministre du travail en Italie, qui, lors de l'annonce par Mario Monti du nouveau plan de rigueur qui va frapper l'Italie, 30 milliards d'économies supplémentaires, avec réforme des retraites, hausse de la TVA, nouvelle taxe sur les mesures prises par ce tout jeune gouvernement pour complaire aux banques et à l'Europe, alors que la récession menace en Italie. On sait comment ce gouvernement italien a été imposé par la Troïka, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, avec à sa tête le désopilant Mario Monti, un ancien de Goldman Sachs. Alors que disent ces larmes de les larmes d'Elsa? Qu'est-ce que ça dit, ces larmes? Eh ben, elle est bien malheureuse de devoir imposer ses sacrifices aux Italiens, mais ces sacrifices, il faut les faire, que voulez-vous, comme une maman qui dirait à ses enfants, c'est bien malheureux mes enfants, mais nous n'avons pas d'autre solution, c'est bien triste, nous allons tous souffrir, alors compassion, émotion, révélation, est-ce que c'est bien comme ça que ça marche? Est-ce que c'est bien de tous qu'il faut attendre, qu'il faut exiger, qu'il faut demander la solidarité? Peur, panique, culpabilité, impuissance, le spectre de la crise s'étend sur le vieux monde. Si vous imaginez une rue commerçante, celle de votre ville, avec la moitié des magasins qui sont fermés, le rideau baissé, avec une étiquette qui dit tantôt à vendre, tantôt à louer. Et si au bout de cette rue, vous voyez une cinquantaine de taxis immobiles, des taxis jaunes qui attendent un problématique client, vous avez une idée de ce qui se passe en Grèce. Et ces images que vous connaissez, que nous retrouverons demain dans le début de notre reportage à Athènes, en Grèce, elles font très peur. Panique, culpabilité, impuissance. Mais Mais d'où vient cette dette? Comment elle a été faite, cette dette? Est-ce que c'est notre dette à chacun d'entre nous? Est-ce que vraiment on est obligé de la payer, cette dette? Et ça rapporte à qui cette rigueur, ces efforts? C'est les questions qu'on peut se poser quand même. Il serait légitime de se les poser assez rapidement, parce que le spectre avance. À qui ça rapporte tout ça? Qui profite de cette crise et de ce marasme? C'est une des questions avec lesquelles nous nous embarquons aujourd'hui. La Grèce, c'est demain. Aujourd'hui, on est encore en Sardaigne. On est à Cagliari avec Pascal Pascariello et Francesco Giorgini pour suivre ces sardes qui manifestent. Parce que la grande question qui se pose, c'est pourquoi tant d'inertie face à une telle monstruosité? La question, elle est là. Il y a une réponse en Sardaigne. C'est ce grand jour de manifestation, cette grande grève générale à laquelle nous allons assister et en partie participer, et qui vont nous révéler des problèmes sardes, bien sûr, mais des problèmes qui sont communs à toute cette vieille Europe, et peut-être même au-delà. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est Julie de Metz. On vous propose un café repère mardi le 6 décembre à 18h au Café La Renaissance sur le thème de enjeux et éthique de notre alimentation. On sera avec l'association L214 qui fait pas mal d'actions sur le sujet et on espère que vous viendrez nombreuses et nombreux. À bientôt, c'est Julie de Metz.
Bertrand, donc à La Défense, là on est venu en délégation CGT pour réceptionner Sarkozy, qui venait, lui, de son côté, réceptionner le nouveau train, le Limite 09. Ben, on a été écartés, molestés par les CRS, et parqués bien à l'abri des regards à la fois des citoyens qui sont sur La Défense, et surtout du président de la République, hein, pour ne pas avoir, dans ce cas, le mécontentement lié à sa politique, hein, bien sûr, à la fois industrielle, et donc son plan de relance, qui est une supercherie. Bon, voilà, on est parqués. Actuellement, cerné avec les cigarettes, hein, qui nous gardent, alors pas bien au chaud parce qu'il fait froid ce matin, mais bien à l'abri en tout cas, pendant que Sarkozy fait son discours au CNIT à La Défense. Voilà, vive la liberté d'expression. À bientôt, salut les AMG.
Le prochain repère de Montreuil-sous-Bois se réunira le mardi 6 décembre à 19h au Bar Magique, 2 places de la République, métro Robespierre. À vos agendas.
On apprend que RFF, Réseau Ferré de France, qui gère les rails, le réseau de rails de la SNCF, va changer 6000 km de rails. 6000 km. Quand on sait que 1 mètre de rail pèse 45 kg, ça représente un volume considérable d'acier. Première question donc, qui va être le fournisseur de ces 6000 km de rails? Ce ne sera pas de Vindel, ce ne sera pas Sidelor, ça n'existait plus. Et mondialisation oblige, il y a de grandes chances que pour que ce soit Mittal. Deuxième question, il serait peut-être intéressant de contrôler si le volume des rails et ces rails ne sont pas contaminés par la radioactivité de déchets faiblement radioactifs, ce que l'industrie pronucléaire a voulu à plusieurs reprises essayer de nous fourguer. Donc, ayons l'œil et le bon.
Et là, d'un côté, c'est la musique sarde qui accompagne les pas des manifestants. Et sur ma gauche, c'est le début du cortège où on voit tous les drapeaux de tous les syndicats, de tous les mouvements. Et ils marchent sur la voie principale de Cagliari. Et ils sont très nombreux parce que là, on n'arrive même plus de toute façon à voir plus loin que le début du cortège. On attend à peu près, sont attendus à peu près 40 000, 50 000 manifestants aujourd'hui à Cagliari pour cette grève générale. Et là, il y a un immense cortège, c'est celui de la CGIL, un syndicat très important, hein, qui serait comparable à la CGT en France. Là, on a les médecins,
libéraux, le Sindicato Pensionati Italiani, le syndicat des retraités italiens. À tous les âges. Dans ce début de cortège, on a des jeunes qui doivent avoir 10 ans, des moins jeunes de 30 ans, des moins jeunes de 50 ans, des moins jeunes de 60 ans, des moins jeunes de 70 ans. Et le sourire est sur les lèvres.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la messe, j'y suis avec Pascal Pascariello et Francesco Giorgini, Sardaigne, sous un grand ciel bleu.
Silvio Berlusconi a commencé sa carrière en faisant le pitre sur des bateaux de croisière, un talent au goût souvent douteux qu'il a utilisé pendant toute sa vie politique. Premier exemple en juillet 2003 au Parlement européen, il prend à partie le député allemand Martin Schulz qui l'exaspère.
Monsieur Schulz, en Italie, un producteur est en train de tourner un film sur les camps de concentration nazis. Je vous proposerai comme capot.
Bien sûr, pas question d'oublier les frasques du Cavaliere. En plein scandale l'année dernière des soirées Bunga Bunga, soupçonné d'avoir monnayé les charmes de cette beauté mineure prénommée Ruby, Silvio Berlusconi élude la question.
J'ai toujours travaillé sans interruption et si parfois j'ai regardé une belle fille, eh bien je dis qu'il vaut mieux aimer les filles qu'être gay.
Appassionati delle belle ragazze che gay.
Les Italiens sont-ils plus nuls que nous? Sont-ils plus beaufs que nous? Sont-ils plus veaux que nous? Combien d'années ont-ils supporté, admiré, exécré leur pitre national, cynique, énergumène, gesticulant? Combien d'années? Sont-ils plus stupides que nous pour l'avoir supporté ainsi, admiré et exécré? Est-ce que notre situation est très différente, la nôtre, qui suivons également de jour en jour un autre personnage qui court dans tous les sens et que nous devons suivre et dont nous parlons de jour, de nuit, pendant combien d'années, fascinés, exécrant, admirant, peut-être encore un peu, un seul et unique personnage, comme si ce seul et unique personnage était responsable et avait le pouvoir sur toute chose. Il y a là ce qu'on appelle un leurre et un trompe-couillon. Serons-nous plus malins que les Italiens qui n'ont pas chassé Berlusconi du pouvoir? Non, Berlusconi est parti avec sa petite queue entre les jambes. Il a été remplacé par qui? Eh bien, par un pouvoir nommé par la Troïka, en dépit de toute démocratie, de tout sens démocratique. Les Italiens, l'Italie est sous tutelle. Et les Italiens, pour l'instant, sont ravis, selon les sondages, soutiennent cet actuel gouvernement parachuté, avec à sa tête donc Monsieur Mario Monti, ancien de Goldman Sachs, qui est en train d'administrer à ce pays les plans de rigueur voulus par les plus orthodoxes néolibéraux que compte encore cette planète. On peut s'interroger quand même sur la légitimité de cette dette, je le disais en commençant, et un auditeur attire votre attention sur cette pétition qui exige un audit de la dette. Ça veut dire qu'on se demande d'où vient cette dette, de quoi elle est faite. Est-ce que cette dette, la dette des États, est comparable aux dettes que vous pouvez avoir, que nous pouvons avoir individuellement, chacun de nous? Est-ce que c'est bien la même chose? Emmanuel Todd, dont vous suivez, j'en suis sûr, les déclarations ces temps-ci, qui sont bien intéressantes et bien critiquables, bien sûr, mais bien intéressantes, rappelle une chose assez simple. Mais pour évoquer Todd, je citerai d'abord Thomas Piketty. Vous savez, le chercheur Thomas Piketty, l'économiste, qui rappelle sans cesse que depuis 2001, les 1% de Français les plus riches ont bénéficié de 150 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. Et la question que pose Todd, elle est très simple. Elle est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces sous-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent-là? Ces gens forts, riches, eh bien, ils ont placé cet argent dans des banques, dans des fonds d'investissement, par exemple. Le fait qu'ils aient été allégés d'impôts, qu'ils aient bénéficié de ces remises, ça appauvrit notre État, un État comme le nôtre s'en est trouvé appauvri d'autant, et donc la dette de l'État s'en trouve augmentée d'autant. Et auprès de qui notre État va emprunter? Eh bien auprès des banques et des fonds d'investissement dans lesquels les Français les plus riches ont placé leur argent. Je vous la fais très simple, mais c'est un mécanisme tout à fait classique de la façon dont une dette se constitue. Pas la peine de grands experts pour comprendre cela. Il se pourrait bien, en effet, que nous n'ayons pas à payer cette dette, que nous n'ayons pas à nous sentir coupables, et qu'il y ait quelque chose là de parfaitement odieux, une monstruosité, une junte en tout cas, une junte civile, comme dit Serge Halimi, une junte financière a pris le pouvoir en Grèce et désormais en Italie, là où nous allons aujourd'hui, disons en Sardaigne, jusqu'à 16h, dans la Basse, si j'y suis, Sardaigne sous un grand ciel bleu.
Crolla il mondo, crolla Wall Street, ma pure se va bene non arriva niente qui. Crolla il mondo con Piazza Affari, ma pure se va bene non aumentano i salari.
Le monde s'écroule, Wall Street s'écroule, mais même quand ça va bien, il y a rien qui arrive ici. Le monde s'écroule, la bourse s'écroule, mais même quand ça va bien, on n'augmente pas les salaires.
Tanto, la vita cambia fino a quando, non me ne frega un cazzo, per me niente sta cambiando. La crisi nelle banche americane ti sconvolge, a me non mi interessa, tutto ciò non mi coinvolge. In quanto a debiti sto messo forte, ma di risparmi non c'è traccia dentro la mia cassaforte.
La crisi dalle banche americane te bouleverse, a moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas, ça me concerne pas. Pour les dettes, je suis très fort, mais de l'épargne, il n'y a pas de trace dans mon coffre-fort.
Il tasso cresce, ma io cerco alternative, son sicuro per se cose non potrò mai sopperire. Prima casa, mutuo banca i miei salari, ma preferisco trasferirmi nelle case popolari. Almeno lì io sto tranquillo, niente affitto condominio, questo meglio di Pier Silvio. Con la benzina una continua mega truffa, prendo la mia bici pure se la gente sbuffa. E via così, il mio rimedio scaccia crisi, vivo la mia vita come fosse un pezzo easy.
Avec l'essence c'est l'arnaque continue, je prends mon vélo même si ça fait râler. Et le voilà mon remède contre la crise, je vis ma vie comme si c'était un morceau easy, easy.
Crolla il mondo, crolla Wall Street, ma pure se va bene non arriva niente qui. Crolla il mondo, con Piazza Affari, ma pure se va bene non aumentano i salari.
Le monde s'écroule, Wall Street s'écroule, mais même quand ça va bien, il y a rien qui arrive ici. Le monde s'écroule, la bourse s'écroule, mais même quand ça va bien, on n'augmente pas les salaires.
Les cloches que vous entendez là sont les cloches accrochées à la ceinture d'un manifestant et il porte une banderole. Et les travailleurs de la santé, de la santé publique, et porte une banderole, il a écrit indignados, point d'interrogation. Noi, incazzati neri.
Indigné, nous? Non, enragé.
Enragé noir. Et le monsieur qui porte la banderole, il a un autocollant sulla poitrine. Mandiamoli a fanculo insieme. Envoyons-les chier tous ensemble.
Pourquoi vous avez mis des cloches de berger?
Non, io lavoro nella pubblica amministrazione.
Moi, je travaille dans l'administration publique.
Perché questo è il simbolo della Sardegna. L'economia agropastorale che sta morendo assieme a tutto il resto dell'economia sarda.
Ces cloches sont le symbole de la Sardaigne. C'est le symbole de l'économie de l'agriculture et des bergers qui est en train de mourir, comme toute la Sardaigne est en train de mourir avec.
Il grosso problema è che la pubblica amministrazione adesso sta vivendo un momento molto delicato perché il governo centrale sta considerando ormai un costo e non più una risorsa la sanità, gli enti locali.
Le problème pour nous, travailleurs de l'administration publique, c'est que désormais on est considéré pas comme une ressource, pas comme un service public d'utilité, mais comme un coût, et un coût qu'il faut couper.
Io sono Mimo Fontis, sono il segretario provinciale della responsabile per gli enti locali della UIL FPL.
Donc je suis
47 anni.
J'ai 47 ans et je suis responsable de mon syndicat pour l'administration publique locale.
Vous nous disiez justement, il pense que la santé aujourd'hui c'est un coût, comment ça se traduit?
Si traduce nel taglio drastico ai fondi per gli enti locali e per la sanità.
Si traduit par le fait qu'on nous coupe tous les budgets, qu'on nous réduit les ressources et les fonds, aussi bien pour la santé que pour l'administration publique. Évidemment, il y a una retombée aussi sur le service qu'on peut rendre après aux usagers.
Cambia perché ci sarà un taglio drastico nei servizi locali che devono dare i comuni.
Allora, d'une part, ça se traduit par le fait qu'on est obligé de réduire les services qu'on peut fournir aux usagers.
E ovviamente poi ci sarà un aumento anche dei servizi che le ASL devono fornire agli ammalati, perché sono costretti ad elevare il costo dei ticket sanitari e gli enti locali devono tagliare i contributi alle famiglie disagiate, ai malati oncologici.
Dell'altro côté, ça se traduit par la réduction de la partie de la santé qui est gratuite. Notamment, par exemple, on doit réduire les subventions aux familles plus pauvres, notamment même pour les maladies chroniques et pour les maladies graves.
È un grafico che va a picco, perché provate a immaginare che la Sardegna ormai ha una paralisi totale del mondo del lavoro.
Tous les grands secteurs économiques et industriels sont en train de fermer. Et pour ce qui nous concerne, effectivement, on a une montée en flèche des gens qui ne peuvent plus se soigner parce qu'ils n'ont pas les sous pour se soigner.
Et on a une idée de combien ça représente?
Sì, si sta girando praticamente oltre il 50%, perché in questo calderone ci dobbiamo mettere anche i pensionati.
Se on compte aussi les retraités, on peut considérer qu'il y a presque 50% des gens en Sardaigne qui ont des difficultés concrètes pour se soigner.
Alors vous allez nous dire, mais pourquoi vous êtes allé en Sardaigne? Ces choses-là, on les entend de plus en plus couramment en France. Cette régression avance aussi dans notre pays. Vous avez bien raison. Ce qu'il faut entendre dans ce jour de colère à Cagliari, en Sardaigne, c'est de temps en temps quelque chose de l'autonomie sarde, même l'indépendance sarde. On a entendu ça dans les reportages de jeudi et vendredi. Il faut comprendre que il y a là quelque chose qui peut inquiéter. Évidemment, il y a un côté repli ethnique, repli sur soi, comme ça, rétrécissement, etc., qui est préoccupant, bien évidemment. Mais il y a là sans doute aussi une volonté de retrouver une souveraineté populaire face à la domination d'une Europe qui impose la domination, comme on disait jadis, du grand capital financier. C'est quand même bel et bien ça qu'on entend dans ces mots, sans pouvoir trouver, pour l'instant, de débouchés politiques. La seule formation, disons, en Italie, qui oppose quelque chose à ce néolibéralisme à l'italienne, c'est probablement la CGIL, c'est-à-dire la CGT italienne.
Démission, démission, démission.
Questa forse a mia memoria è la manifestazione più partecipata della storia di quest'isola, anche perché il momento che quest'isola sta vivendo è un momento davvero drammatico.
A ma memoria, c'è peut-être la manifestazione la più partecipata dell'histoire de l'île. Et c'est aussi parce que le moment que cette île est en train de vivre est un moment particulièrement dramatique.
Questa non era una manifestazione di sabato, questo era uno sciopero generale. Le persone che erano qui hanno lasciato il posto di lavoro e hanno messo a correre una giornata di retribuzione.
C'est pas un jour chômé aujourd'hui. C'est pas un samedi, c'est pas un dimanche, c'est un vendredi. Donc les 60.000 personnes qui étaient ici, un pourcentage énorme par rapport à la population, c'est à peu près tous des actifs. Ils ont renoncé à une journée de travail pour être ici. Ça vous montre bien qu'ici l'économie est à genoux.
Sono Enzo Costa, sono il segretario generale della CGIL Sarda.
Je suis Enzo Costa, je suis le secrétaire régional del sindacato CGIL Sardegna.
E non è où la Sardegna oggi?
Allora, abbiamo due dati drammatici.
On a deux données dramatiques.
Il 13,4% dei sardi è disoccupato.
13,4% dei sardi è au chômage.
Ma il dato più drammatico è la disoccupazione giovanile.
Ma la donnée la più allarmante, la più drammatica, è il chômage des jeunes.
Che è al 34,5%.
Che è al 34,5%. Ça veut dire che un jeune sur trois in Sardegna è au chômage.
Per cui quello che oggi noi vediamo, che sembra una società non in crisi, se lo andiamo a proiettare nel futuro ci accorgiamo che questa società sarda, se non cambia, non avrà mai un futuro.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le début de la crise, mais si on regarde par la suite, si les choses ne changent pas, on voit bien que cette société ne peut avoir aucun avenir.
C'è un altro dato drammatico, oltre ai disoccupati, oltre 350.000 sardi vivono con un reddito che è al di sotto della soglia di povertà.
Il y a un'altra donnée drammatica che vous explique la situazione. Più di 350.000 abitanti di Sardegna vivono en dessous del seuil di povertà.
Ce qui veut dire, si je reprends vos chiffres, c'est quasiment un sur cinq, un sard sur cinq qui vit en dessous du seuil de pauvreté, hein.
Sì, basta un dato. La pensione media che un pensionato sardo riceve è 794 euro, è sotto la soglia di povertà.
Il suffit de prendre en considération une donnée, la retraite moyenne en Sardegna c'est 790 euro, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté.
L'Italie va devoir se serrer la ceinture, un plan de rigueur draconien, voilà ce qu'a présenté dans la soirée Mario Monti, le nouveau chef du gouvernement mis en place depuis moins de trois semaines.
Euronews, 4 décembre 2011.
Si Mario Monti renonce à son salaire de chef du gouvernement, il fait adopter aussi une réforme durcissant considérablement le système des retraites, une mesure difficile qui bouleverse la ministre des Affaires sociales.
Mécanisme long,
Elsa Forneo.
Le système des retraites est un mécanisme long, génération après génération. Alors nous avons dû, et cela nous a coûté psychologiquement, demander un sacre.
Je crois qu'elle voulait dire sacrifice, comme vous l'aurez compris.
Là, on est sur la voie principale de Cagliari, qui donne sur le port. Là, en fait, on a une dame devant nous, qui s'est recouverte d'un drap blanc, sur lequel il y a écrit
« Lavoratrice precaria des servizi per i lavori regionali ».
Travailleuse précaire des services pour les travaux de la région. Et dans les deux, c'est moi qui va lire, parce que lire dans les deux, c'est compliqué. Siamo i fantasmi della pubblica amministrazione, on est les fantômes de l'administration publique. E allora on voit deux petits fantômes qui disent travailleurs des services de l'emploi de la région. On n'en peut plus de mots, on veut des faits. Basta parole, vogliamo i fatti.
abbiamo tutte forme contrattuali diverse, noi siamo lavoratori a ore praticamente e comunque siamo tutti collaborazioni, non abbiamo lavoro dipendente, sono tutti contratti atipici.
Aucune de nous a un contrat de travail à durée indéterminée, même pas vraiment des véritables contrats à durée déterminée, c'est ce qu'on appelle en Italie des contrats atypiques, en gros on est payé sur des contrats horaires.
Per cui anche la tutela del posto del lavoro è quella che noi non abbiamo ferie, non abbiamo quasi niente di malattia.
Du coup on a très peu de vacances payées bien sûr, très peu de couverture maladie, c'est vraiment des contrats très très pénalisants.
Vous avez combien à la fin du mois?
Più o meno 1200.
À peu près 1200 euros par mois.
Ça fait combien de temps que vous travaillez pour ce service qui s'occupe de l'emploi?
7 ans, précaire.
Depuis 7 ans et ça a toujours été des contrats comme ça, précaires.
È diventata veramente dura. La regione ricorre agli operatori, a noi, per tutte quelle che sono le misure di sostegno ai cassi integrati, mobilità, tutti i colloqui da fare, la formazione per aiutare chi è in situazione di cassa integrazione, eccetera.
No, notre travail devient de plus en plus une assistance au chômage ou pré-retraité. Comment gérer sa pré-retraite, comment demander les indemnités de chômage.
Sì, c'è anche il problema che non essendo noi sicuri del nostro lavoro ci troviamo anche in difficoltà a garantire la nostra presenza perché noi lavoriamo con le persone.
Une des difficultés supplémentaires, c'est que comme nous-mêmes on est précaires.
E io alle persone devo dire torna tra un mese che c'è questo bando ma non sono sicura di esserci io tra un mese.
Donc quelqu'un vient, je lui dis ah oui regarde il y a ce concours auquel tu pourrais t'inscrire, reviens dans un mois pour le dossier, sauf que c'est pas sûr que moi dans un mois je serai là pour suivre son cas.
Vous avez quel âge?
45.
Siamo 360.
On est 360 à être dans cette situation dans mon service.
Quasi tutti laureati, specialisti dell'orientamento, servizi per il lavoro, giurisprudenza, economia e commercio.
La plupart étant des bacs plus 4 ou plus 5 des diplômés de l'université, soit en économie, soit en giurisprudence.
Speriamo che la UE non ci e che possiamo andare avanti.
On espère donc que l'Union européenne nous coupe pas la gorge et que donc on puisse survivre.
En faisant vraiment le geste du coup près, hein.
Oui, sous la gorge, comme ça.
On est de plus en plus de moins en moins considérés comme des êtres humains à part entière. Comme les têtes de bétail, tout bon, copie. On mène à l'abattoir comme mieux. On envoie perdre, boire et brûler là où la bête, bébé, est plus facile à traire. Aussi, petit agneau qui t'est encore ta mère.
Territoire du bord des eaux troubles.
Où l'on peut voir flotter les narines de l'œil opaque. Cortile quatre pattes qui te guette pour te happer et tes croquettes coulent brillantement dans les mâchoires de crocodile. Bien, crocodile. Un crocodile. Et puis tu n'es que douce sous le corps du crocodile.
Crocodile.
On a de plus en plus de moins en moins con. On est par les discours pleins de souffles
et de consensus. Des engraisseurs de porc qui nous sucent le cortex.
On est de plus en plus enchaînés au rouage. Et la machine qui s'emballe nous entraîne en spirale vers les bras, vers les
capots. Oh. Oh.
Aussi, grâce à l'antilope,
charmant fait cochère.
Et pour toi,
les violents coups de queue du caïman à lunettes.
Les plus racailles.
Plus retard.
Et des crocodiles, crocodiles, crocodiles,
crocodiles,
crocodiles, pris dans ses entrailles.
Je donnerai pas cher de ta peau.
Alors c'est, on parle depuis quelques jours de la qualité culturelle de la jeunesse sarde, comme quoi c'est la génération la plus cultivée que cette île a jamais eue. Et là, il y a deux jeunes femmes qui doivent avoir une vingtaine ou une trentaine d'années maximum. Et ils ont une banderole fait maison, fait par elles. Je vais vous lire. Evoluzione storica della democrazia. Pericle, discorso agli Ateniesi, 461 avanti Cristo. Evoluzione storica della democrazia. Due punti. Pericles, discorso agli Ateniesi, 461 avant Jésus-Christ. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi e per questo viene chiamato democrazia. Ici, c'était le mot de Pericles. Ici, notre gouvernement favorise le nombre, les nombreux, plutôt que les peu nombreux, plutôt que les élites. Et pour ça, on l'appelle démocratie.
Due disoccupate. Discorso agli italiani 2011 dopo Cristo.
Deux chômeuses. Discours aux Italiens 2011 après Jésus-Christ.
Qui il nostro governo favorisce i pochi invece dei molti.
Ici notre gouvernement favorise les élites à la place du peuple, les peu à la place des nombreux.
E nonostante tutto viene chiamata democrazia.
Et malgré tout, on l'appelle encore démocratie.
Je m'appelle Simona Boulegas.
Vous avez quel âge, Simone?
32. Je suis étudiant.
Et pourquoi vous êtes venue aujourd'hui à cette grève générale?
Parce que j'ai pas de travail. La situation, c'est vraiment très dur. Pour tous les garçons et les filles de mon âge, non c'è un lavoro assicurato. Ci sono solo piccoli lavori per noi giovani.
Il n'y a pas de travail pour nous, il n'y a que des petits boulots.
Spesso sono lavori in nero o stagionali.
La plupart, c'est des travail au noir ou alors saisonnier.
E non ci permettono di poter pensare a un futuro, di poter pensare ad un'autonomia.
Ça ne nous permet pas de pouvoir penser à notre avenir, de pouvoir penser à devenir indépendant, autonome, de se faire une vie.
I giovani italiani, la maggior parte, vivono ancora a casa dei genitori, ma non per una loro scelta, non per una pigrizia.
La plupart des jeunes italiens, ils vivent toujours chez leurs parents, même quand ils ont 30 ans comme moi, mais pas parce qu'ils sont paresseux, parce que c'est leur choix.
Purtroppo questa è la situazione della maggior parte dei giovani italiani.
E ça, malheureusement, c'est la situation de la plupart des jeunes italiens.
Vous avez fini de nous ruiner.
Scippatori.
Voleurs.
Siete dei scippatori.
Voleurs.
Popolo sardo, fatevi sentire.
Peuple sardo, faites-vous entendre. Travaille, travaille. Faisons trembler ce palais avec nos voix. La prochaine fois, on ne sait pas avec quoi on le fera trembler.
Jour de colère, grève générale à Cagliari. En Sardaigne, ces jeunes chômeurs diplômés qui parlent, on pourrait entendre exactement les mêmes mots à Lisbonne, à Barcelone. On les a entendus à Athènes, on pourrait les entendre à Dublin à Londres et aux États-Unis et également. Alors là, il faudrait peut-être faire attention avec ces jeunes chômeurs diplômés. On sait ce que ça a induit en Tunisie. Bien sûr, un certain nombre essayent de partir. Il y a une fuite véritablement de ces entre guillemets cerveaux, mais ils sont sans doute appelés à jouer un rôle. En tout cas, en Italie, l'oligarchie financière a congédié son guignol. Berlusconi est sorti de la piste. Le pitre n'était plus nécessaire. Cette fois-ci, l'oligarchie financière a pris les choses en main, a pris la barre, comme en Grèce et sans doute prochainement dans d'autres pays européens. Cette fois, c'est le face-à-face. C'est eux et nous, eux et le reste.
Votre prénom?
Torre Corriga, che 50. 58.
Vous avez un t-shirt où il y a écrit Lavorati in Lota. Roccul.
Roccolo, fabbrica di lana di roccia.
Une usine de laine de roche.
Combien en Sardaigne, combien il y a eu de pertes d'emplois justement avec la fermeture de l'usine?
Nella nostra fabbrica erano 100 diretti e 100 indiretti.
Dalla nostra usina gli aveva 100 employés direct e 100 des employés indirect.
Gli appalti.
De su tretto.
E tutto il personale oggi è in cassa integrazione.
Ma noi siamo tutti sempre in retraite o a chômage technique.
Est-ce que vous avez confiance au successeur là, de Berlusconi Monti?
Allora, tutti ci avrebbero sicuramente promesso lacrime e sangue.
Tutto il mondo nous aurait de toute façon promis des larmes et du sang.
La differenza qual è? Che se dalla mia busta paga da 700 euro, dove 500 sono portati via dal mutuo regionale, me ne rimangono 200 per mangiare.
Il problema è che se da ma fiche de paye de 700 euro au chômage technique, il y en a 500 qui vont pour payer mes empreintes. Il me reste 200 euro per moi per mangiare.
Mi porti via altre 100 euro, mi stai portando la metà di quello che mi serve per dare da mangiare a mia figlia.
Se ti dici 200 euro, tu mi dici, je viens t'en enlever 100, c'è come se tu mi enlevi la moitié di ce che mi resta per nourrire mia figlia.
I 100 euro per me sono importantissimi.
I 100 euro là per me sono vitaux, sono la moitié di ce che je peux dépasser per mangiare.
E questo è il problema in Italia. In Italia non c'è più politica, non c'è più una classe politica che fa gli interessi della nazione.
In Italia non c'è più di politica, non c'è più di classe politica che fa gli interessi della nazione e dei gens.
Ma perché cosa siamo a Cagliari?
Pourquoi on est à Cagliari? Sûrement pas pour se promener.
Lo sciopero generale di oggi.
Mais pour protester
contre
la politique économique et financière injuste du gouvernement national.
Après la journée de grève générale, on est retourné sur la place qui a été justement renommée la place de la République sarde, où on voit Consulta del Popolo Sardo, la consultation du peuple sarde, lavoro égale futuro, c'est toutes les banderoles qui sont mises un peu de partout sur la place, qui veut dire le travail égale le futur. Et ce soir, eh ben, sur la place, il y a encore du monde qui discute, les discussions continuent, et juste au-dessus de la place, on le voit là, si je monte un peu sur mes pieds, puisque il y a des escaliers qui nous séparent, il y a un petit muret, il y a toujours le haut des deux mobilhommes dans lesquels sont postées les sept femmes qui font la grève de la faim contre les expropriations qui sont organisées par Equitalia, une entreprise mandatée par l'État italien. Là, tout le monde est réuni, tout le monde discute de comment on s'organise pour demain et aussi de politique.
Voilà, ça fermente, ça discute. À partir d'expériences réelles, là, on n'est plus dans les théories, on n'est plus dans les grandes analyses, on n'est plus avec nos éditocrates, médiacrates. On est avec des gens qui parlent de leur expérience, de leur vie, et qui ressentent les choses dans leur physique et qui sont pas seulement indigné, vous avez compris. On a dépassé ce stade de la simple indignation, un peu nunuche, un peu gentille. On est dans la colère, à la recherche, et ça presse d'un débouché politique.
Votre prénom?
Carlos Chiro, agricoltore.
Carlos Chiro, agriculteur.
Decimo Puzzo.
Decimo Puzzo, che
provincia Cagliari.
Dal departamento di Cagliari.
E agricoltore, vous faites?
Erbe tipo la rucola, il basilico, erbe essenziali, diciamo anche.
Des erbes essentielles, e notamment, per esempio, della roquette, du basilic.
Ho una situazione, io sono ho la mia azienda all'asta dal 1995.
Ma mon entreprise agricole è mise aux enchères par les banques depuis 1995. Ça veut dire che a n'importe quel momento quelqu'un pourrait venir l'acheter?
Sì. Perché io oggi non ho più il capitale per poter affrontare questi debiti.
Absolument, parce que moi j'ai pas les sous pour payer mes dettes et non plus les sous pour me la racheter aux enchères.
Vous, du coup, vous avez eu des emprunts à hauteur de combien?
Perciò 45.000 euros.
On parle donc d'une dette que j'avais contractée de 45.000 euros.
E la mia azienda è stata messa all'asta quando esisteva ancora le lire per 500 milioni di lire.
E mon entreprise a été mise aux enchères pour 500 millions de lire, c'est-à-dire 250 000 euros.
È una politica proprio di affamare l'agricoltore, tra cui ti vengono a prendere i soldi che hai in deposito nel tuo conto corrente, ti pignorano via i rimborsi di IVA, ti prendono via l'attrezzatura, ti viene presa forzatamente con l'intervento anche delle forze dell'ordine.
On te prend un tessuto che è sul tuo conto personale, in dehors del conto dell'entreprise, on prend tes proprietà, on prend même tes instruments de travail, tes machines, e continua a se payer sulla bête, per così dire.
Io ho 50 anni e ho iniziato a fare l'agricoltore a 24 anni.
J'ai commencé à être agriculteur à 24 ans, j'ai 50 ans.
Noi siamo così. E io sono dal 95 che faccio le battaglie.
E moi, c'est depuis 95 que je me bats contre ça.
Système quoi,
ouais. Anche di più, addirittura.
Oui. Mon copain là, qui est à côté, même plus que ça. Moi, ça fait 43 ans que je me bats contre ce système. Que ce système, à qui il remplit les poches?
Primo, sono le banche.
D'abord, les banques.
Poi ci sono i commercianti, di multinazionali.
Après il y a les multinationales, les marchands des multinationales.
Supermercati. Che importano qua l'80% del prodotto che noi mangiamo.
Qui nous impose l'importation de 80% des produits agricoles qu'on mange ici en Sardaigne.
Vous importez 80% des produits que vous mangez alors qu'on est en Sardaigne?
Si, si.
Alors là, on s'est attablé avec Francesco, du coup on reste aussi sur la place et tout le monde nous offre à manger. Et je pense que c'est le meilleur repas qu'on puisse faire ici parce que c'est vraiment tous les produits que font les éleveurs, tout le monde s'entraide en apportant de quoi manger.
La saucisse, le fromage pecorino, le baluge, la mozzarella.
Et lo sapete quanto io avevo maiali, no? E lo sai quanto mi pagavano la carne? Da 0,60 a 0,80 il chilo.
Nous, moi, par exemple, j'avais, entre autres, en plus de mes salaires, j'avais des cochons. Et le prix qu'on me payait par kilo, 60 centimes le kilo de viande de porc.
Io ho venduto le scrofe, no? I maiali. Le ho a 67 euro una scrofa del 200, le ho vendute. Perché quel prezzo non paga neanche il mangime.
Au final, j'ai vendu tous mes cochons, notamment mes truies, à 67 euros. Pour une bête de 200 kilos. Parce que de toute façon, quand je vendais la viande, j'arrivais même pas à me payer les frais pour les nourrir. Donc c'était pas la peine.
On est en train de manger avec Francesco du pecorino et des saucisses faites par les éleveurs. C'est juste sublime.
Del mio maiale. Ça c'est
du lard.
Ça c'est le lard de son cochon, de mon cochon à moi.
Celui qu'Antonio n'a pas vendu.
Non, deux ou trois per me, ce l'ai encore.
J'en ai gardé quand même trois pour moi, pour me faire le lard.
Pour pas mourir de faim.
Le pecorino, le fromage sarde.
Il est en train de manger, qui est sublime.
Il est utilisé aux États-Unis, m'a expliqué Carlo, comme coupe. C'est-à-dire qu'on le prend, on en fait de la poudre de fromage, et après, on le mélange au fromage américain. Donc, il est payé comme un produit de très bas étage, alors que c'est un fromage affiné, un fromage avec une tradition millénaire.
Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a amené l'année dernière le fameux mouvement des bergers sardes, qui a été très, très violent en Sardaigne, très dur, parce que notamment il fallait se battre contre ça. C'est-à-dire que c'était aussi les États-Unis qui avaient fait passer le pecorino, les fromages sardes, pour rien, en fait, pour des fromages de seconde zone, enfin des fromages qui n'ont plus aucune valeur.
Et le maillard est castrat.
Pour bien faire grossir le cochon.
Nous explique Antonio, pendant qu'on est en train de le déguster, son cochon.
Il faut lui couper les couilles.
Allora, gli tagli le palle, si ingrasse.
Quando gli coupe le couilles, il grossi.
Poi c'è anche un altro grosso problema. Se arrivo a 500 euro dopo 43 anni, che non sono, ho 60 anni, adesso con queste leggi dovrei andare a 67 anni, quanto 500 euros al mes?
J'ai commencé à travailler donc à 17 ans. Ça fait donc maintenant j'en ai 60. Ça fait 43 ans que je paye mes charges de retraite. Mais il faudrait que je travaille encore 7 ans, hein, parce que maintenant on va à la retraite à 67 ans. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs à la communauté européenne. Donc je vais encore payer pendant 7 ans de charges de retraite. Et qu'est-ce que je vais avoir comme retraite? C'est entre 400 et 500 euros par mois de retraite. Donc si vous voulez, moi, ce que je vais faire, c'est que j'entrerai presque à mourir assez vite.
Voilà ce qui explique les larmes d'Elsa Fornero, la ministre du travail italien, dans le visage, et les larmes circulent partout. C'est les larmes, le sang va venir bientôt. C'était le dernier volet de Sardaigne sous un grand ciel bleu, un reportage à Cagliari de Pascal Lopez Cariello, flanqué de Francesco Giorgini. On tournera bientôt en Sardaigne sur un tout autre sujet, l'OTAN. Oui, la Sardaigne, c'est la base de l'OTAN. C'est toute une autre histoire. Merci à tous. Merci à Rosie, Salvatore, Antonio, Enzo et Carlos. Merci aussi à Bettina et aux sept femmes en grève de la faim sur la place Trinto. Demain, donc, nous serons en Grèce. On part à Athènes avec Antoine. Ciao. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, la-bas.org. Et vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Guillaume Roux. C'est Bertrand Chometon et Franck Aderer qui ont réalisé cette émission, assisté de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chérie, pour ma robe noire, les chaussures noires ou les écrues?
Je ne sais pas, moi. Quand tu choisis des assiettes, carré pour le carpaccio, oui, ovale pour le poisson, oui, mais... ronde pour le dessert, tu te poses pas de questions, tu te fais plaisir, tu harmonises.
C'est vrai, j'harmonise.
Et ben là, tu fais pareil. Tu harmonises.
Les hommes de la table. C'est comme la mode, c'est bien quand ça change.
Il est 10h. Pierre est assis dans son fauteuil, il regarde par la fenêtre. On sonne, il fait rouler son fauteuil pour aller ouvrir. Approchons-nous un peu pour écouter ce qui se passe dans sa tête. Quand on ne peut plus se déplacer seul, c'est bien de savoir que quelqu'un vient vous chercher pour aller prendre l'air.
Auxiliaire de vie sociale, c'est l'un des 18 métiers que 2 millions de professionnels peuvent exercer à votre domicile. Les services à la personne, ça vous change la vie. Pour tout savoir, appelez le 3211, prix d'un appel local depuis un poste fixe. C'était un message de l'Agence nationale des services à la personne et des ministères chargés de l'économie et de l'emploi.
Futuroscope. Chef, ouais. J'ai dérobé le programme des 25 ans du Futuroscope. Oh, oui, ils sortent le grand jeu, Total. Un peuple venu du futur, un show de magie façon Las Vegas totalement inédit. Une attraction avec le petit prince en version Futuroscope. Un spectacle hallucinant qui casse tout en nocturne.
Oh, mais nous, on fait quoi?
Vous, je sais pas, chef, mais moi, je suis obligé d'y aller.
Oui, quelle bonne idée.
Profitez des prix anniversaires. Du 19 novembre au 2 janvier, le séjour est gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans inclus.
Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis à Athènes. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Paris et Berlin veulent un nouveau traité européen à 27 ou au moins à 17. La décision pourrait être prise en fin de semaine lors du sommet européen de Bruxelles. Après 2 heures d'entretien, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel tiennent en ce moment une conférence de presse à l'Élysée. Les dirigeants français et allemands semblent être tombés d'accord sur plusieurs points. Pour sortir l'euro de la crise, pas question de lancer des obligations européennes. L'Allemagne n'en veut pas. À l'inverse, la France obtient que la Cour de justice européenne ne puisse annuler les budgets nationaux. Les deux pays proposent un sommet de la zone euro tous les mois durant la crise. Ils enverront bientôt une lettre détaillée au président du Conseil de l'Union européenne, le Belge Herman Van Rompuy. En Italie, l'austérité à marche forcée. Le nouveau plan de rigueur adopté hier en Conseil des ministres est présenté cet après-midi au Parlement italien. En jeu, plus de 20 milliards d'euros d'économies. Hier, la ministre du Travail a fondu en larmes au moment de prononcer le mot sacrifice à propos de la réforme des retraites. Les pensions italiennes ne seront plus indexées sur l'inflation, sauf les plus modestes. À Rome, Anaïs Feugat.
L'alarme de la ministre du Travail est à la une, évidemment, de la presse. Ce matin, elle est ressentie un peu comme un signe d'humanité de ce gouvernement de technocrates froids qui opère tel des chirurgiens. Mario Monti a d'ailleurs lui-même défini ce nouveau plan de rigueur, le plan pour sauver l'Italie, appelez-le Decreto Salva Italia, a-t-il dit aux journalistes. Un plan lourd pour les contribuables, mais toutefois indispensable pour éviter la faillite de notre pays, résume la Repubblica, journal de centre-gauche. C'est vrai que les Italiens semblent résignés après des semaines de tensions sur les marchés financiers et des signes de bonne volonté font passer la pilule amère. Mario Monti a affirmé à titre personnel qu'il renonçait à percevoir son salaire de président du Conseil et de ministre de l'économie. C'est un signe de participation au sacrifice demandé et qui sera sûrement apprécié, explique il Corriere della Sera. Cela servira à recréer ce feeling entre les ors du gouvernement et le pays réel. Et le quotidien conclut, Rome a pour objectif de présenter l'Italie et ses partenaires européens du côté des solutions plutôt que de celui des problèmes. Rome, Anaïs Feugat, France Inter.
En France, le parquet de Libourne en Gironde ouvre une enquête après une tentative d'intrusion dans la centrale nucléaire du Blayais ce matin. Deux échelles et une banderole ont été retrouvées de part et d'autre de la clôture. À Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, 9 militants de Greenpeace sont bel et bien parvenus à monter jusqu'au dôme d'un réacteur. Greenpeace a voulu démontrer par l'exemple que les centrales nucléaires ne sont pas sûres. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, vient d'admettre des défaillances du dispositif de sécurité. Quant à Nicolas Sarkozy, il juge assez irresponsable l'action de Greenpeace. Ils étaient 23 joueurs, ils ne sont plus que 3 sur la liste des finalistes du Ballon d'Or de la FIFA. Tous jouent en Espagne. L'Argentin Lionel Messi, son coéquipier Xavi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Le vainqueur sera désigné le 9 janvier.
Aujourd'hui,
what's your name, boy?
Journée spéciale,
Hugo.
Hugo Cabret.
Il était une fois,
France Inter part à l'aventure,
un garçon nommé Hugo Cabret.
Avec Martin Scorsese,
Hugo Cabret.
Tout au long de la journée, plongez en avant-première dans l'univers de Hugo Cabret, le dernier film du réalisateur américain.
The right performances and the right moves.
Prochain rendez-vous,
a mixture of theater and film.
À partir de 17h, dans le grand entretien, François Bunel reçoit Bertrand Tavernier.
You've got a bit of talent.
Et à 18h, Philippe Collin et Xavier Mauduit recevront Ben Kingsley.
I would think a magician, the most complicated one I've ever seen.
Mystère, énigme, magie et aventure dans le Paris des années 30. Aujourd'hui, tout au long de la journée, France Inter part à l'aventure avec Martin Scorsese.
L'histoire n'est pas finie.
Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter. La différence.
Il est 16h04 sur France Inter et vous retrouvez Frédéric Ledéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, et oui, la journée Martin Scorsese se poursuit. Je dis Scorsese parce que j'ai entendu lui-même prononcer son nom ainsi ce matin, donc voilà, quand on aime la musique, on aime aussi la prononciation, pas exacte, mais enfin c'est celle qu'il a choisie, c'est quand même son nom à lui. Et le compositeur de ce film, Hugo Cabret, pourquoi Cabret? Ben, Scorsese a dit lui-même que c'est parce qu'il connaissait un seul mot en français, c'était cabaret, et donc il cherchait à franciser vraiment le nom du petit personnage, du héros, et c'est comme ça qu'est arrivé Cabret, tout simplement. Le compositeur de la BO, comme on a toujours dit, enfin de la musique originale, c'est Howard Shore, compositeur de renommée tout à fait internationale, qui a signé la musique de plus de 60 films, des très grands succès, Le Seigneur des Anneaux par exemple, 3 Oscars, 4 Grammy Awards, 2 Golden Globes, et puis bon, on pourrait citer énormément de films, mais par exemple King Kong pour Peter Jackson. Il est né au Canada, à Toronto, Howard Shore. Il a étudié d'abord à Boston, il a ensuite joué comme saxophoniste dans pas mal d'orchestres, il est parti en tournée avec un groupe, est entré à la télévision comme directeur musical de la célèbre émission humoristique Saturday Night Live, non pas Fever mais Live, la vie du samedi soir et de la nuit même, dirigeant la musique en direct pendant les 5 premières saisons de l'émission de 75 à 1980. Et puis on le retrouve dans plein de d'aventures. Notamment, il a écrit 12 longs métrages de David Cronenberg. On peut citer La Mouche, terrifiant film, et tout à fait génial, bien sûr, dont il va tirer d'ailleurs un opéra. Il va écrire la musique d'un opéra qui s'appelle La Mouche aussi. Il a signé la musique de Gangs of New York, aussi quelques récompenses au passage, les Grammy par exemple, et puis After Hours de Scorsese aussi, L'Avocat du Diable, Sidney Lumet, Sidney, et puis ensuite Looking for Richard d'Al Pacino, et puis Aviator de Martin Scorsese lui-même. Donc après Pacino, toute cette énergie musicale, on la retrouve dans la baguette de Howard Shore, qui a dirigé l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande et le chœur aussi dans un premier concert mondial, et le Seigneur des Anneaux, une symphonie en 6 mouvements qu'il a orchestré lui-même. Enfin il fait tout lui-même. Howard Shore, il dirige, il écrit bien sûr, il orchestre, et un personnage tout à fait passionnant et riche. Voici de Howard Shore, la musique originale pour Hugo Cabret, le partenaire est France Inter, et c'est les trains, tout simplement, parce que l'histoire se passe à la vieille gare Montparnasse, et le petit personnage se balade là-dedans, dans un monde féerique, et il va rencontrer aussi le cinéma à travers Georges Méliès. Les trains, évidemment, qui illustrent et qui traversent très rarement la gare Montparnasse. C'est arrivé, vous vous souvenez peut-être d'une fameuse image, on avait vu une locomotive qui s'était pas arrêtée et qui pendait hors de la gare Montparnasse. Mais là, ça ne se passe pas dans le film Hugo Cabret. Donc, musique originale de Howard Shore. Et voici un autre passage, Le Magicien. Alors, évidemment, il se passe beaucoup.